L'ouragan Irma dans les Caraïbes a quelque peu éclipsé la principale actualité internationale du début de semaine, à savoir le nouveau test de la Corée du Nord d'une bombe à hydrogène d'une puissance 6 fois supérieure à celle qui a frappé Hiroshima en 1945. Il faut être le dictateur nord-coréen pour ne pas avoir froid dans le dos. Ce 6e essai nucléaire du pays n'a fait qu'exacerber des tensions déjà vives entre Pyongyang, ses voisins du Pacifique et les États-Unis, tensions qui ont ponctué tout l'été avec des manœuvres militaires, des menaces et des déclarations belliqueuses. Mercredi dernier, les États-Unis ont présenté devant l'ONU un projet de résolution pour de nouvelles sanctions internationales contre la Corée du Nord, projet qui doit être voté ce lundi en Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Notre invité est Paul Kiles. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Président d'Initiative pour le désarmement nucléaire, l'IDN, maire de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn. Vous avez été ministre de la Défense de François Mitterrand et président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale. Alors depuis quelques jours, on a surtout peur, à vrai dire, des cataclysmes naturels. Mais en gros, la question maintenant, c'est celle d'où viendra la fin du monde? Est-ce que, selon vous, ça viendra de l'arme nucléaire ou bien du réchauffement climatique?
J'allais dire, de façon humoristique, mais le sujet n'y prête pas trop, des deux. Des deux, et le lien entre les deux m'apparaît à chaque instant quand j'écoute la radio et que je vois les conséquences dramatiques des ouragans qui se succèdent sur les Caraïbes, où l'on dit « c'est épouvantable et ça l'est, que tout est rasé ». Que toute vie disparaît, sauf que là, on en est une dizaine de morts, et qu'à Hiroshima, on en était à 200 000. Et que la moindre bombe, vous venez de le dire, la moindre ogive, c'est 10 fois, 50 fois, 100 fois Hiroshima. Faites la multiplication, et vous voyez de quoi l'on parle. Donc, s'inquiéter de ce que vous appelez la fin du monde, ça devrait être le vrai souci des dirigeants.
Jean-Yves Le Drian a dit que la situation faisait peur, donc peut-être qu'il en prend la mesure.
Quand on est un homme politique, on ne doit pas avoir peur. On doit avoir peur des conséquences malheureuses de ces actes, mais on ne doit pas avoir peur, sinon il faut faire autre chose. On doit regarder avec objectivité, avec réalisme, la situation dans laquelle nous vivons. Songez qu'entre 1945 et 1990, 1945, il y avait 3 bombes. Une qui a été essayée avec succès par les Américains dans le désert de Nouveau-Mexique et 2 qui ont été larguées sur les 2 pauvres villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc 3 bombes. Et à la fin de la guerre froide, donc la chute du mur de Berlin, on en était à 70 000 ogives. Donc on a été pendant 45 ans, et moi j'étais ministre pendant cette période-là, ministre de la Défense, pendant 45 ans dans cette course folle à l'armement, chacun disant il faut que je sois plus performant que le voisin. Et chacun disant mais cette bombe elle n'est pas grave, parce que de toute façon on ne l'utilisera pas. Et ça c'est là qu'est la folie, et c'est là qu'il faut avoir peur de la folie des hommes.
On va y revenir tout à l'heure sur cette question de la doctrine en fait, de la dissuasion nucléaire, Paul Kiles, mais encore un mot sur ce qui se passe avec la Corée du Nord. Vous parliez de l'impérative nécessité de ne pas avoir peur pour un homme politique. Un homme politique invité sur France Inter cette semaine, Dominique de Villepin, a énoncé 3 options pour lui face à la Corée du Nord. Un, a-t-il dit, agir militairement avec l'arme nucléaire, mais alors là, ce serait précisément la mise à mort de l'outil de dissuasion.
Seulement la mise à mort de beaucoup de monde.
Et voire de beaucoup de monde avant tout, bien sûr. 2, ne rien faire. Mais alors, c'est engager la course à la prolifération. 3, et c'était la 3e option qui avait sa préférence, engager un dialogue, mais engager un dialogue qui passerait nécessairement par la Chine. Évidemment. Quelle est votre position?
Évidemment. La première solution que j'ai lue sous la plume d'une spécialiste, entre guillemets, des questions de défense et de géopolitique, c'est la meilleure solution, le moins mauvaise. C'est un mot qui est très à la mode, le mal nécessaire. C'est le bombardement.
Mais c'est Valérie Niquet, je pense, pour ne pas la citer, qui a signé une tribune dans Le Monde.
C'est d'une irresponsabilité gravissime.
Mais elle disait pas frapper nucléairement, là. Elle disait frapper la Corée du Nord avec des cibles précises sur des sites économiques ou des sites nucléaires. Mais évidemment.
Encore faudrait-il les connaître
et faire attention à ce que ça ne déclenche pas une bombe nucléaire. Mais elle disait, c'est peut-être très dangereux pour la Corée du Sud, mais ça pourrait aussi avoir un effet totalement dissuasif sur le régime nord-coréen.
Mais je ne sais pas comment on peut dire des choses pareilles. Quand on a affaire, aussi bien en Corée du Nord qu'aux États-Unis, à des principaux responsables dont l'équilibre mental est parfois sujet à réflexion. Le danger de la dissuasion nucléaire, parlons-en, c'est qu'il fait appel à la psychologie des hommes. les femmes, mais ce sont des hommes là, à la psychologie des dirigeants qui doivent avoir des nerfs à toute résistance à tout ce qui peut se produire. J'ai l'habitude de citer, et ce sera dans un petit livre que je vais sortir dans 15 jours sur les situations de personnalité.
Sur les citations.
De citations, oui, de philosophes, de généraux, de chefs d'État, de gens qui ont réfléchi à ces questions-là depuis 50 ans. Des citations très courtes, et celle qui me frappe le plus et qui répond justement à la question que vous posiez, c'est celle du président Reagan, qui avait pas du tout, donnait pas le sentiment d'être un grand pacifiste, et qui a dit dans ses mémoires, en tant que commandant en chef des forces armées américaines, vous n'avez que 6 minutes pour décider comment réagir à un signal sur un écran radar et s'il faut ou non déclencher l'apocalypse, qui pourrait faire preuve de raison dans un moment pareil, 6 minutes. Et des citations de cette nature-là, j'en ai des tas qui montrent que les chefs d'État, malgré les airs de sérénité qu'ils veulent se donner, sont des gens totalement angoissés par rapport à l'apocalypse qu'ils peuvent déclencher. Parce que là, on n'est plus dans le cas de l'ouragan, de raser une malheureuse île, d'avoir des dizaines de morts. Mais c'est une véritable apocalypse qu'il s'agit. Qui peut avoir dans ces moments-là la capacité de réfléchir profondément à l'acte qu'on va commettre?
Donc, Paul Quillès, il faut discuter, même avec quelqu'un qui est rationnel, comme on le dit, hein, de Kim Jong-un, mais qui semble quand même un peu délirant et obsessionnel dans son envie absolue d'avoir l'arme nucléaire. Pour vous, il faut quand même dialoguer, passer par des sanctions, mais assorties de négociations.
Il faut essayer de comprendre quels sont les objectifs des responsables politiques. L'objectif des États-Unis depuis les années 50, depuis la guerre de Corée 50-53, c'est d'être présent dans cette zone. Et aujourd'hui que la Chine est montée, c'est plus la Chine de Mao de 1949, aujourd'hui que la Chine a une importance colossale au niveau mondial, notamment économique, les Américains veulent rester dans cette zone-là. Et au milieu, entre la Chine, si je puis dire, et les Américains, je parle aussi de la Corée du Sud, du Japon, il y a cette Corée du Nord qui a des objectifs. L'objectif, c'est pas d'aller bombarder l'île de Guam, l'objectif, c'est pas de bombarder les États-Unis, tous ces redemontades aussi bien de Kim Jong-un que du président Trump, ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est que la clique dirigeante, parce que c'est pas une démocratie, veut se maintenir. Et pour se maintenir, il a pensé qu'il avait besoin du nucléaire. Mais ça date de longtemps, ça. Ça date de l'époque où les Coréens du Nord, Kim Il-sung, Kim Jong-il, donc là on a la troisième génération, a utilisé le nucléaire pour dire, quand on a le nucléaire, on ne peut pas vous attaquer. C'est plus compliqué que ça, contrairement à cet argument qui est souvent mis en avant par les défenseurs du nucléaire. Donc, avec cette capacité qu'il a eue à une époque, qu'ont eu son père et son grand-père, d'acquérir le nucléaire militaire à partir du nucléaire civil. Le nucléaire civil, c'était les Russes qui avaient aidé la Corée du Nord à avoir du nucléaire civil, ce qui était autorisé par le traité de non-prolifération. Hein, on parle du TNP, traité de non-prolifération, 68-70, ratifié par la France seulement en 92. Ce traité, il permet effectivement de lutter contre la prolifération. Mais de quelle façon? Il faut être de bonne foi. Or, ce traité, il dit à l'article 6 qu'il faut relire, dont on devrait parler plus souvent, que les pays signataires, dont la France bien évidemment, qui fait partie des 5 pays qui ont le droit, d'après le traité de non-prolifération, d'avoir du nucléaire, ils doivent s'engager à faire des négociations pour faire disparaître l'armement nucléaire. On croit rêver quand on lit ça. Et la France vient donner des leçons avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, en disant attention, le développement de la prolifération nucléaire. Eh ben, est-ce que vous savez le discours que tient Kim Jong-un? C'est exactement le même discours que tiennent les 5 pays dotés de l'armement nucléaire.
Donc rien ne peut l'en dissuader.
Exactement. Attendez, le discours, c'est « j'ai besoin du nucléaire pour assurer la défense de mon pays ». Ben, excusez-moi, mais précisément, c'est le même discours que tiennent les autres. Donc pourquoi ce qui est mauvais pour Kim Jong-un serait bon pour les 5 autres pays? Donc il s'est passé un événement considérable dont on a peu parlé, on va peut-être en parler maintenant. C'est qu'à partir du 20 septembre à l'ONU, le traité qui a été rédigé par 120 pays à l'ONU, dont on a relativement peu parlé, ce traité-là va être soumis à ratification. Et dès qu'il y aura 50 pays qui vont l'avoir signé, à partir de ce moment-là, le traité s'appliquera. Alors, soyons clairs, parce que je connais l'argument. Le fait qu'il s'applique ne veut pas dire que du jour au lendemain, le nucléaire a disparu. Quand on a fait la même opération pour l'armement chimique, qui était une abomination, pour l'armement biologique, on a engagé un processus. Et à partir du moment où le processus est engagé, l'arme devient illégitime. Elle devient immorale au niveau international. Et je voudrais, à ce propos, puisque je parle d'armes légitimes et que j'ai lu dans les colonnes d'un quotidien cette expression pour le nucléaire, d'un mal nécessaire, c'est assez extraordinaire parce que c'est l'argument qu'utilisaient les dirigeants américains, britanniques et français à la grande époque de l'esclavage pour justifier l'esclavage. L'esclavage, c'était un mal nécessaire. Et il se trouve qu'il y a eu des gens courageux, des citoyens courageux de ces pays qui ont dit « c'est immoral, c'est impossible et on peut créer des richesses sans l'esclavage ». Et moi je dis de la même façon. Aujourd'hui, on peut créer de la sécurité, une plus grande sécurité du monde sans le nucléaire. On n'est pas obligé d'avoir ce mal nécessaire qui peut causer des catastrophes absolument colossales, comme il est facile de démontrer, que moi je l'ai démontré dans un livre et comme on va le dire de plus en plus, il y a des risques colossaux et on ne peut pas jouer l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité à la roulette.
Mais Paul Quillès, je citais tout à l'heure ce projet de résolution pour de nouvelles sanctions internationales contre la Corée du Nord que les États-Unis ont présenté mardi, qui va être voté normalement lundi. Comme vous venez de le dire, c'est le septième. Donc ça veut dire qu'il ne faut rien en attendre.
Non, prenez l'exemple de l'Iran, 2015. C'est un bon exemple, même si la situation est quand même différente. Pour l'Iran, je me souviens des discussions 2013-2014, il n'y a rien à faire. Il y a même un président de la République qui avait dit « la seule solution, c'est d'aller bombarder ». Vous voyez, c'est toujours la paix par la guerre. On a vu ça combien de fois.
Donald Trump se réserve le droit d'attaquer.
Enfin, ça c'est le dernier tweet, mais il faut voir l'avant-dernier aussi et le prochain. Donc ça, malheureusement, et c'est ça qui est terrible, c'est que les gens qui disposent de cette forme-là ne sont peut-être pas tout à fait équilibrés mentalement.
Mais vous voyez que vous faites de la psychologie aussi.
Oui, mais psychologie. J'écoute ce que disent les uns les autres. J'écoute ce que disent les psychiatres aussi. Il faut être terriblement équilibré pour jouer. C'est le mot. Je mets même pas des guillemets pour jouer, pour bluffer. Si vous jouez au poker, si vous négociez un contrat, monsieur Trump a l'habitude de négocier des contrats de BTP au niveau international, jouer du bluff, c'est possible. Mais là, on bluffe avec quoi? Avec l'avenir de pays, avec l'avenir du monde, avec l'avenir de la planète. Et ça sera tout autre chose si jamais, par malheur, ça arrivait qu'un ouragan sur les Caraïbes. Donc, les sanctions, oui. C'est ce qui s'est passé avec l'Iran, mais en même temps qu'il y avait les sanctions, il y avait du dialogue, de la discussion. Et à partir du moment où, dans la discussion, on peut donner des garanties, à ce moment-là, les sanctions sont levées et le développement du nucléaire, c'était le cas de l'Iran, des centrifugeuses pour avoir de l'uranium très très enrichi. À partir de ce moment-là, le pays qui est concerné peut avancer. Mais aujourd'hui, des sanctions comme ça dans le vide, ça ne conduit à rien. D'autant plus qu'on sait très bien que ces sanctions sont contournées par la Chine, notamment ce qui concerne le commerce extérieur de la Corée du
d'autant,
Nord.
D'autant, Paul Quillès, que vous avez rappelé tout à l'heure l'histoire longue de cette volonté de se doter d'une arme nucléaire par la Corée du Nord. Ça n'est pas Kim Jong-un qui est le premier à le vouloir. Donc, on se demande vraiment ce qui pourrait l'en dissuader et quel type de garantie on peut attendre.
Oui, mais je vous rappelle que dans les années 90, il y avait, moi j'étais à Pyongyang en 95 dans une mission parlementaire et je me souviens, 1 million de morts par la famine. Et il y a eu la possibilité avec le président Carter à l'époque d'engager des dialogues. Et le dialogue a été rompu parce qu'il y a eu un changement de majorité aux États-Unis. Mais le dialogue a été engagé à plusieurs reprises. Et que demande Kim Jong-un? C'est justement ça. C'est cela qu'il faut analyser. C'est à un moment donné d'être reconnu comme puissance nucléaire. Alors, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, mais il faut peut-être aller, et c'est une des propositions que je fais, qui a été faite par d'autres d'ailleurs, c'est d'aller vers une dénucléarisation de la péninsule coréenne, c'est-à-dire engagement, que ce soit du nord comme du sud, non production, non stockage d'armement nucléaire, parce qu'il y en a au sud avec les Américains qui sont avec les Sud-Coréens. Donc aller dans ce sens d'une dénucléarisation. Il y a 6 zones dans le monde qui sont des zones exemptes d'armes nucléaires. Pourquoi ne pas envisager cela? Ça a été envisagé en 2016. 5 par les 6 pays qui sont concernés, c'est-à-dire les deux Corées, la Chine, la Russie, le Japon et les États-Unis, en 2005, qui avaient dit il faut aller dans ce sens. Eh ben, c'est peut-être dans des conversations qui seront probablement pas publiques. Alors, ça va frustrer les commentateurs, mais les négociations en matière de diplomatie commencent souvent de façon discrète. Et je te donne, tu me donnes, on essaye d'aller vers un équilibre. Donc, c'est sanctions avec des sécurités, des garanties de sécurité et des garanties économiques. Là, dans les sanctions, on a envisagé, par exemple, la coupure du pétrole, et on voit bien que la Chine ne le veut pas, parce que si on coupait le pétrole, ça serait une catastrophe, et la Chine ne tient pas à ce qu'il y ait une catastrophe à ses frontières, quelle que soit la catastrophe d'ailleurs. Donc la Chine peut avoir un rôle apaisant dans ce conflit, mais il ne faut pas céder à ces extrêmes, à ces bluffs, à ces rodomontades, et à ce sentiment. J'entends tous les jours « Ah, mais monsieur Kiles, comment vous pouvez demander qu'on supprime l'armement nucléaire ? Vous voyez la Corée. » Ça ne veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Et j'ai fait faire un sondage il y a quelques temps, qui n'a pas eu un grand succès médiatique, qui montre que les Français, à 70%, pensent que le traité d'interdiction des armes nucléaires qui est en cours de signature à l'ONU est une bonne chose pour la paix, et que 68% pensent que la France doit modifier sa position. La France qui dit être pour le désarmement, mais qui bloque complètement les discussions.
Il est 8h32. Paul Kiles, restez avec nous. On poursuit cette conversation qu'on reprend d'ici quelques minutes.